J'ai un rapport à la montagne un peu inexplicable.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Ça envoûte, si on peut dire. Il y a le toucher du rocher qui est important. Il y a l'ambiance. On se lève tôt, en général. C'est nuit, la frontale, cric-crac sur les glaciers, la marche d'approche. Ça fait un bruit assez caractéristique. Et une ambiance de mystère en même temps.
Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline Develet Mazurel, Laure Alary.
Pour moi, c'est le fait de me promener en haute montagne, dans un univers de glaciers, de rochers, et de chercher à vivre de belles aventures. Là où il y a des montagnes, loin des vallées, loin du monde, et de me retrouver dans cette espèce de territoire complètement originel, où la main de l'homme se fait le moins sentir possible, et où je me mets à l'unisson de la nature pendant un moment.
Tout a commencé ici, en fait. Tout a commencé ici, dans les Alpes. Et puis, chaque face, chaque voie a une histoire forte, a son lot de moments épiques, a son lot d'aventures, a son lot d'échecs, d'essais, de revenir, de retenter, a son lot de tragédies, parfois. Donc, chaque face, chaque sommet, chaque arête a son lot d'histoires plutôt incroyables.
Bonjour, ils ont ouvert la voie, celle des cimes et des sommets, dans un pays de montagnes et de conquêtes, les Alpes. Et c'est vrai que l'histoire de ces pionniers de l'alpinisme est incroyable. On y croise des hommes, français mais aussi anglais, accrochés aux parois à plus de 4000 mètres d'altitude, à une époque où tout reste à conquérir, à inventer, et où les moyens sont, c'est le moins qu'on puisse dire, rudimentaires. Aujourd'hui, pour suivre la trace de ces illustres grimpeurs, il faut aller en Savoie, à Chamonix, véritable camp de base de l'alpinisme, consacré capitale mondiale de cette discipline née dans le repli des Alpes, dès le XVIIIe siècle. À l'époque, au même titre que l'océan, la montagne devient un objet de curiosité, d'expérimentation. Les sommets isolés, les glaciers, baignés de soleil, là-haut, tout là-haut, Mont Blanc en tête, suscitent les rêves les plus fous, d'ascension et d'expédition. Des hommes vont alors se mettre en marche pour un grand voyage à la verticale qui continue encore aujourd'hui. Tout de suite, prenons un peu de hauteur avec Raphaël Constant, notre reporter, et Claude Jacou, doyen des guides de haute montagne, une légende qui a été l'un des premiers à emmener des voyageurs à 7000 mètres et à 85 ans, il monte encore.
Claude Jacou, on est dans le téléphérique vers l'aiguille du Midi. À combien on va monter là ?
2003, c'est une étape sur le sommet d'Aiguille qui est à 3800, une étape obligée dans laquelle normalement on change de benne, mais là, la benne supérieure, il y a un peu trop de vent, il ne peut pas fonctionner.
Là, on prend de la hauteur sur Chamonix, on voit toute la vallée s'éloigner de nous.
Et on voit le paysage défiler, c'est pas mal.
Alors on ralentit.
Sur la gauche, c'est le massif des Aiguilles Rouges. Au fond, vous avez le col des Montets, le col de Fort qui donne accès sur la Suisse. Après, on voit le massif des Guyertes, on ne voit pas le sommet parce qu'il est caché par les Drus. Alors, c'est ce double sommet. C'est le grand et le petit Dru, c'est des sommets aussi mythiques. Ensuite, ce qu'on appelle vraiment les aiguilles de Chamonix, qui sont toutes des aiguilles dans un granit absolument magnifique. Aiguilles de blétière là-dessus, les ciseaux, le fou, caïman, crocodile, aiguille du plan, vous voyez.
Et pourquoi ils ont ces noms-là ?
Blétière, parce qu'ici nous sommes dans les alpages de blétière. Caïman, crocodile, c'est des premiers ascensionnistes qui sont amusés à les baptiser.
Et est-ce qu'on peut voir le Mont Blanc d'ici ?
Oui, oui, caché par l'arête de l'aiguille du Midi, mais on voit le sommet là.
On voit le sommet à 4810 mètres. C'est le sommet le plus haut des Alpes.
Oui, oui, tout à fait.
Et puis on voit au loin quelques alpinistes qui commencent à grimper, bâton en main.
Oui, parce que là c'est le départ pour le Mont Blanc. On sort la corde, le matériel de montagne, les mousquetons. Il y en a un qui grimpe jusqu'à un relais. où il s'arrête. Là, c'est vraiment la technique d'alpinisme qui rentre en jeu. Jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est de la balade. Puis il y a un certain moment où ça tombe dans le domaine de l'escalade et de l'alpinisme.
Mais un peu de patience. Avant de grimper, retournons au pied des montagnes avec Raphaël. Et Claude Marin, guide féru d'histoire, il est aussi le porteur du projet d'inscription de l'alpinisme au patrimoine immatériel par l'UNESCO.
On est à Chamonix, Claude Marin, entouré de glaciers, de cimes. Quand on lève la tête, on peut voir d'abord des forêts de pins et ensuite se dessiner tout en haut les cimes enneigées de neige éternelle. Et donc Chamonix, c'est une ville qui est un petit peu construite en cuvette dans cette vallée entourée de glaciers.
Alors ce qu'on peut dire, c'est que Chamonix, c'est une vallée glaciaire qui a été formée par ces glaciers, des grandes glaciations. Et par exemple, il y a 30 000 ans, il y a 1000 mètres au-dessus de nos têtes. Puis les glaciers sont revenus. Ils sont revenus jusqu'en bas dans la vallée. En 1860, les glaciers arrivaient dans la vallée et on craignait qu'ils coupent la vallée en deux. On faisait venir les évêques pour les bénir, pour qu'ils reculent. Ils ont tellement bien béni ces glaciers qu'ils ont commencé à reculer et qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup reculé. Les Alpes coupent l'Europe en deux. Il y a le versant méditerranéen et puis le versant du nord de l'Europe. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, on traverse ces montagnes. Des croisades sont passées par le Grand Saint-Bernard. Napoléon est passé par le Grand Saint-Bernard. Les marchands partaient du sud de l'Italie, du sud de l'Europe, pour aller dans les grandes foires au nord de l'Europe. Et puis petit à petit, on ne s'est pas contenté de traverser les Alpes, on a voulu les explorer. Et c'est de là qu'est parti le tourisme, ces Anglais notamment, qui faisaient le grand tour de l'Europe. Et ce qui était étonnant, c'est qu'ils ont fait, ils ont écrit cette découverte au pays des glacières. Et très rapidement, beaucoup de scientifiques sont venus à Chamonix pour monter et faire des recherches sur les glaciers, sur l'atmosphère. On se demandait pourquoi le ciel était bleu, donc on allait faire des expériences là-haut. Tous ces phénomènes-là ont fait que Chamonix est devenu assez vite très connu. À l'époque, on n'allait pas en montagne pour le plaisir, c'était mal vu et il fallait vraiment effectivement avoir un objectif scientifique pour vouloir aller dans ces montagnes qui étaient en plus le domaine des morts et des âmes errantes. Et ces hauts lieux, ces glaciers étaient des montagnes maudites. Maudites parce que les glaciers descendaient très bas dans la vallée. Et souvent, il y avait des avalanches, souvent, ils passaient par-dessus des villages, par-dessus des routes. Et ces hauts lieux n'étaient pas productifs, donc on n'allait pas en haute montagne.
Oh, que c'est haut le haut des montagnes, allons mollo, j'ai le mollet ramolli. Oh, que c'est haut le haut des montagnes, j'en ai plein le dos, je suis vidé, je vous le dis.
Claude Marin, on est devant la statue de deux grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme dans les Alpes et notamment à Chamonix. Cette statue représente donc deux Saussure et Jacques Balmat. Et l'un d'eux montre le Mont Blanc.
Ici, il y a deux grands hommes et il y en a un autre juste derrière aussi parce qu'ils étaient trois pour cette conquête du Mont Blanc. C'était l'association d'un noble savant de la riche Genève, d'un bourgeois de Chamonix qui était le médecin local et d'un paysan local aussi de Chamonix et qui était le guide. Et l'association de ces trois hommes a permis l'ascension du Mont Blanc. Le premier, Horace Bénédicte de Saussure, c'était un philosophe, un physicien, un géologue. Et puis Jacques Balmat était le guide local et il s'est associé avec le médecin Paccard qui voulait aller au Mont Blanc et ils avaient bien prévu cette organisation puisqu'on les a suivis de la vallée à la jumelle, ce qui était important parce qu'il fallait qu'ils prouvent cette ascension. Saussure est arrivé à Chamonix la première fois en 1760, il avait 19 ans. Il a été absolument subjugué par ce Mont Blanc qu'il avait en face de lui et il a demandé à son guide de l'époque de faire savoir dans la vallée qu'il offrait une prime pour celui qui trouverait le chemin qui pourrait l'emmener au sommet du Mont Blanc. Et ça, c'était en 1760 et Jacques Balmat n'était pas encore né puisque c'est seulement en 1786, 26 ans plus tard, que ça va réussir. Les gens de ces vallées alpines ont compris à cette époque-là qu'il y avait aussi peut-être un gain à trouver, à accompagner ces gens en haute montagne, parce que c'était les seuls qui étaient capables de les conduire en altitude. Et de là est née cette association du citadin qui avait de l'argent pour aller en montagne et du local qui pouvait l'accompagner. Ça faisait un petit revenu complémentaire.
Il se tisse des liens entre le guide et son client qui sont exceptionnels. Pratiquement, j'ai eu pas mal de très bons clients qui revenaient chaque été pour faire des courses avec moi. Ils se tissaient entre nous des liens d'amitié qui ne se sont jamais détendus.
Claude Jacoux, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être guide de haute montagne?
Comme on dit souvent, c'est une maladie, c'est le plus beau métier du monde. On assouvit sa passion parce que on éprouve toujours autant de plaisir à gravir une voie, parce que c'est toujours très très esthétique, une ascension en montagne. Donc on a un plaisir pur à effectuer cette course, et en même temps, on a une responsabilité. On a un client qui se repose complètement sur vous. C'est vous qui êtes garant de sa sécurité, et c'est cette sécurité qu'on lui apporte qui fait justement des volets de la beauté du métier de guide. Et puis j'ai eu une grande chance, c'est un de mes clients américains, et il m'a proposé d'aller au Népal. Et ça c'était en 66-67, et le Népal était très très peu connu. On est allé au camp de base de l'Everest, au petit sommet, le Kalapatar, juste magnifique belvédère sur l'Everest, et on est revenu, ça nous a pris 2-3 mois. Voilà, ça m'a donné un peu le goût des voyages. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'emmener des gens faire des sommets dans des pays lointains.
Et alors justement, vous parlez des années 1940, à l'époque où vous avez commencé à grimper. Quelle éducation on avait à la montagne à cette époque-là?
Elle était très faible. Quand on a commencé, on grimpait avec des chaussures à clous, ce qui va très très mal pour grimper. On ne connaissait pas le baudrier, donc on s'encorde directement sur la corde. L'évolution du matériel a été prépondérante. Et puis, il y a eu aussi l'évolution de la technique. On s'est habitué à s'entraîner sur des écoles d'escalade. Le niveau pour la haute montagne a du coup progressé. On s'est mis à faire en haute montagne des choses qui étaient absolument impensables. Quand on part en montagne, on étudie toujours. Il y a des guides de papier, qui décrivent la voie, et ils racontent aussi toujours l'historique de la voie. Les premiers ascensionnistes, la date à laquelle ils ont gravi cette voie, etc. Donc il y a tout un substrat historique dont on ne se dégage pas. Et les gens qui ont envie de faire les Grandes Jorasses ou la Verte, ils y vont aussi parce qu'il y a une histoire sur ces sommets qui est très importante, dont on ne peut pas se dégager.
Et cette histoire dans la vallée, on la retrouve aussi au musée alpin, situé dans un ancien palace. Ce qui nous rappelle à quel point Chamonix est un laboratoire historique du tourisme international. Ainsi, en 2017, la vallée a accueilli plus de 2,5 millions de touristes de plus de 50 nationalités différentes. Et tout cela, on le doit à quelques riches Anglais en quête d'exploration et d'altitude. Dès le XVIIIe siècle, ils découvrent en effet la force et la beauté des paysages alpins. Et un siècle plus tard, les Édouards Whymper et autres Albert Mummery enchaînent les premières ascensions. À Londres, on monte même le premier club alpin, en 1857, 20 ans avant les Français. Et dans le sillon de ces Britanniques et de leurs récits de voyage, des millions de touristes vont alors débarquer avec le train dans les Alpes pour des vacances à la montagne. On retourne sur les traces des pionniers avec Laure de Comble qui travaille au musée alpin.
Alors là, on est devant une vitrine qui évoque la première ascension du Mont Blanc, qui a eu lieu le 7 août 1786. Très vite, d'autres vont tenter l'ascension, et notamment des femmes. Celle qu'on vous présente, c'est Henriette d'Angeville. Henriette d'Angeville, c'est la seconde femme à faire l'ascension du Mont Blanc au mois de septembre 1838. Et là, en fait, vous avez une reconstitution de son costume.
On voit un mannequin femme avec une robe, parce qu'il faut signifier qu'elle est montée en haut du Mont Blanc en robe.
Effectivement, on a l'impression qu'elle est en robe, mais en fait, elle ne l'est pas complètement parce que sous sa robe, elle a un pantalon légèrement bouffant, resserré aux chevilles, et avec ce grand manteau qui fait office de robe par-dessus. C'est en laine assez épaisse. Elle a également un capuchon sur la tête, une écharpe autour du cou, et elle porte un long bâton ferré.
Et à côté de ce mannequin, on peut voir son matériel de l'époque, j'imagine, à savoir des cordes, une hotte en bois et un panier un petit peu plus loin.
Au début de l'alpinisme, il n'y avait pas de matériel spécifique. On utilisait les outils agricoles, en fait. Et donc ces hottes sont des hottes agricoles qui ont servi de premier sac à dos, en fait. Donc ce n'était pas l'idéal, mais c'est ce qui a servi pendant au moins 150 ans à l'alpinisme.
On continue la visite ?
Donc si on avance un petit peu, on peut voir ici un ensemble de matériel qui a appartenu à Gaston Rébuffa, qui est un des grands grimpeurs français de l'après-guerre. Si vous regardez bien, le piolet que vous avez ici est beaucoup plus court que les piolets qu'on a vus précédemment. Et il est entièrement en métal, entièrement en aluminium. Vous avez également une corde. La corde n'est plus en chanvre à ce moment-là. La corde est en nylon. Donc elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus résistante. Vous avez un sac à dos qui est un des premiers sacs à dos d'escalade. Et vous voyez qu'il n'a plus d'armature, il est beaucoup plus léger. Il est en tissu synthétique, bleu en l'occurrence.
Alors qu'avant, ils étaient en cuir assez épais.
Et là, on voit bien qu'on privilégie l'efficacité et la légèreté. Petite nouveauté aussi, c'est le port du casque. Et puis vous avez aussi quelques pitons et broches à glace qui ont appartenu à Rébuffa et qui sont symboliques aussi des nouveaux terrains qu'on explore et notamment les parois rocheuses.
Donc c'est à partir des années 1960-70 qu'il y a une vraie évolution de la pratique de l'alpinisme.
Pour donc l'alpinisme, c'est le moment de l'escalade artificielle. Et les années, alors à partir des années 50, 60, 70, sont la grande période des expéditions en Himalaya, dont le premier 8000 a été réalisé par deux Français de Chamonix, Maurice Herzog et Louis Lachenal en 1950.
Franck Charlet, on est dans le train à crémaillère de Montanvert,
oui,
qui nous emmène sur le site de la mer de glace. Alors, il s'agit d'un train en bois, ancien, à crémaillère, rouge. C'est quoi l'histoire de ce train ?
En 1741, les premiers touristes qui sont arrivés à Chamonix, c'était des Anglais, William et Pocock, et ils ont été visiter la mer de glace. Le glacier était extrêmement spectaculaire au niveau du Montanvert à ce moment-là. Et donc, ils ont fait les premiers livres là-dessus, 1741, 60 ans avant la première ascension du Mont Blanc. Donc c'est devenu un haut lieu touristique dès lors, pendant deux siècles et demi.
D'ailleurs, William Pocock a dit « quel beau voyage ».
Quel beau voyage. Et il a dit « regardez ces vagues de glace, on dirait une mer de glace ». Et le nom est resté.
Alors on monte à 900 mètres de dénivelé. On le sent parce que le train monte de façon très raide,
oui,
et on est à flanc de montagne, on traverse la forêt de sapins. À notre droite, on est vraiment contre la roche, contre la montagne. Et à notre gauche, là, se dégage une vue absolument magnifique sur la vallée. C'est la vallée de Chamonix en bas ?
C'est la vallée de Chamonix, là, une vue complètement panoramique et plongeante sur la vallée de Chamonix, là, dont on voit tous les villages les uns derrière les autres. Ben voilà, c'est arrivé sur le site du Montanvert. Alors, faut imaginer que il n'y a pas si longtemps que ça, même dans les années 90, le glacier était à ce niveau-là, un grand glacier tout blanc. Et aujourd'hui, ça a fondu de près de 150 mètres. Et le glacier n'existe pratiquement plus au niveau du Montanvert. Le glacier existe ensuite. J'espère qu'on va avoir le loisir d'aller s'y promener.
Le train ralentit.
On descend ?
Bonjour.
Bonjour.
S'il vous plaît.
Merci.
Bonjour patron, ça va ?
Là, on va donc descendre par un sentier et ensuite, on va prendre des échelles. C'est assez spectaculaire. Ensuite, on va arriver sur des parois rocheuses. Et là, on va s'équiper avec un baudrier, mettre une petite corde, parce qu'il y a moyen de tomber de 150 mètres. Donc la chute est peut-être un petit peu grave. Donc on s'encorde et il y a des points de sécurité et tout se passe très bien. Je vous sens sportive et bien entraînée, prête à toutes les aventures.
Je suis prête.
Allons-y.
Alors vous avez votre sac à dos, votre piolet,
voilà,
et les bâtons. On y va.
Donc là en fait on est déjà sur le glacier, bien qu'on se croit sur un énorme pierrier. Dessous c'est la glace, mais le glacier est recouvert de rochers. D'autant plus instable, on va voir là. Et ces rochers, ben, ils glissent sur la glace, doucement.
On entend tomber de la montagne.
Et on va entendre des gros éboulements, ouais, sans doute. Voilà. Je pose bien tes pieds où je pose les miens.
Et là, Jean-Franck, les chemins qu'on est en train de prendre, c'est les chemins que les premiers alpinistes...
Oui, ouais. Oui, bien sûr. Ils ont marché comme nous sur ce glacier.
Donc on pourrait dire qu'on marche sur les sentiers de la mémoire.
Exactement.
De l'alpinisme.
Alors ça c'est très fort en montagne. Par exemple dans les aiguilles de Chamonix, là, juste au-dessus de nous. D'une façon assez extraordinaire, ces sommets, ces voies d'escalade, datent par exemple de la fin du 19e. Et les descriptions faites de ces ascensions il y a 150 ans maintenant, eh bien, elles sont toujours valables aujourd'hui. Donc on met vraiment la main où les Mumry, Burgner, autres grands alpinistes de l'époque, ont mis la main. Moi, j'ai un de mes lointains cousins qui a fait la première ascension des Drus en 1879, Jean Charlet. Et la description qu'il fait de l'itinéraire est toujours aujourd'hui à peu près le même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un endroit où on monte une cheminée, pas très confortable.
C'est quoi une cheminée ?
Une cheminée, c'est une fissure large entre deux rochers. Il explique qu'à bout de 15 mètres, il faut en sortir sur la gauche, qu'on trouve là une vire, c'est-à-dire une petite plateforme, et qu'ensuite on monte une dalle et qu'on retrouve une nouvelle cheminée, etc. Et aujourd'hui, quand on va faire les Drus, on retrouve ces mêmes descriptions. C'est un côté quand même assez émouvant.
Là, on arrive sur la neige. Tu creuses des marches dans la neige ?
Ouais. Attention, là.
Là, c'est une crevasse.
Petite crevasse. Bon. Elle est pleine d'eau, celle-là. C'est-à-dire qu'elle est fermée. Hein.
Là, il y a plein de crevasses. Ça y est, on est vraiment sur...
Ça y est, on est sur la mer de glace. Et puis après, comme la glace devient très bleue, elle va être plus glissante. Et donc, on va mettre les crampons.
C'est quand même un spectacle.
C'est quand même formidable.
Assez magnifique.
C'est quand même...
Quand on lève le nez.
Un lieu de nature tout à fait insolite.
On est comme dans une cuvette de glace.
Oui. Donc, il y a presque 2 km de paroi au-dessus de nous. Quand même très spectaculaire.
On se sent un peu seul au monde.
Ah, ça y est.
Et vous avez grimpé quel sommet qui nous entoure là ?
J'ai tout fait. Moi j'ai deux activités. J'ai l'activité de guide de haute montagne. J'ai quand même commencé il y a 55 ans. Et mon deuxième activité c'est d'être cristallier. Donc cristallier, ben, c'est de chercher des cristaux dans la montagne. Et à ce moment-là, il faut s'éloigner des itinéraires classiques. Et donc ça nous fait fouiller la montagne d'une façon très différente.
Et en fait, historiquement, les cristalliers... On peut dire que c'est les premiers alpinistes parce que c'est eux qui côtoyaient la montagne.
Effectivement, il faut imaginer au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, que les paysans, ils vivent de pas grand-chose. C'est un endroit où l'agriculture, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a eu des famines. Donc ils sont chasseurs. Donc ils s'aventurent loin au-dessus de la maison, dans les terrains des chamois, qui sont jusqu'à presque 3000 mètres d'altitude. Et puis l'autre activité, c'est qu'ils se sont aperçus très vite. Il y avait dans ce massif du Mont Blanc, pas simplement que des magnifiques montagnes, mais il y avait surtout des cristaux. Et le cristal de roche avait une vraie valeur marchande.
Là, ça crispe fort.
Ça, la mer de glace, là. Ça va peut-être les crampons, hein.
Ouais.
Là, c'est tout bleu, ça y est.
Là, c'est bleu, c'est sublime. Je m'assois là ?
Ouais. Hop ! Alors. Voilà, donc il y a une semelle avec 12 pointes d'acier qu'on fixe avec une lanière. Voilà.
Hop, je suis pareil.
Et là, donc, on arrive à l'endroit qui s'appelle la Bédière, qui est ce magnifique canyon donc creusé dans le glacier, avec des jolies parois de à 50, 55 degrés, 60 degrés, voire plus. Il y a un petit bout vertical, je vois là-bas, et où les gens viennent s'entraîner à faire de l'école de glace, s'entraîner en cramponnage, utilisation du piolet et crampons.
Est-ce que c'est pas un peu ça aussi l'alpinisme, c'est mériter, se donner physiquement pour aller trouver des endroits cachés de la nature, des petits joyaux?
Oui, ça ressort d'une curiosité, hein, pour aller faire des voies nouvelles, en comprenant qu'il y a des précipices et qu'il ne faut pas tomber, en comprenant qu'il y a une technique à avoir, et donc de se mettre à l'unisson de cet univers et de le comprendre, fait qu'on l'aime de plus en plus, qu'on y est de plus en plus attaché, puisque plus ça va, plus on s'y sent à l'aise, bien, tranquille, reposé. Partout où la nature a repris le dessus, partout où il y a des grands espaces, je dirais que c'est là où je me sens le mieux au monde.
Et avec Isabelle Campbell, on se sent aussi pas mal sur RFI.
Ici à l'altitude d'Elbrunner, on est quasiment à 3500 mètres et on a une vue à 360 degrés sur toutes les montagnes environnantes. Et quand je dis montagne, il faut imaginer des grosses montagnes puisqu'on a le Mont Blanc, le Mont Blanc de Courmayeur, le Mont Maudit, le Mont Blanc du Tacul, tout l'envers des aiguilles de Chamonix ici en face de nous. Et puis sur notre droite, frontalière avec l'Italie et la Suisse, on voit les gros dômes neigeux là-bas, c'est le côté sud des Grandes Jorasses avec la sortie de la Walker. Et puis si on revient un peu en regardant côté Chamonix, l'aiguille verte et les Drus avec un petit nuage qui fume.
Et ce paysage qui mêle le bleu intense du ciel, quelques nuages blancs et surtout le blanc pur de la neige, ça a un côté assez poétique et en même temps, c'est un vrai appel au voyage en fait.
La montagne a un côté magique, presque un peu enchanteresque parfois. Quand on pose ses yeux sur une aiguille, sur une arête, sur un dôme neigeux, on a envie assez vite de découvrir qu'est-ce que ça serait de se retrouver dans cette immense face, quelle serait ma joie, mon bonheur ou l'intensité de l'expérience de se trouver sur cette montagne et d'arriver au sommet.
À plus de 3000 mètres entre France et Italie, on continue d'admirer les Alpes, avec cette fois Liv Sansoz, grimpeuse et championne française d'une quarantaine d'années. Avec elle et Raphaël, parmi les nuages, la glace et la roche qui pique le ciel, on entrevoit aussi la folie et l'audace des hommes qui, depuis des siècles, s'évertuent à gravir les sommets. De longue date, il faut le dire, la montagne c'est une affaire masculine de héros conquérants qui d'attaque en plan de bataille, ce sont les termes, se mesurent aux éléments et à l'immensité. Mais pas de quoi impressionner Liv, une enfant du pays.
Je suis née en montagne, à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. J'ai un grand-père qui faisait du fromage de chèvre et qui était tous les étés en alpage. Et j'ai passé tous mes étés en alpage et j'ai toujours aimé la montagne. À 14 ans, j'ai fait le Mont Blanc. Je voulais vraiment faire le Mont Blanc. J'ai insisté auprès de ma famille pour que je puisse faire le Mont Blanc. Et quand j'ai fait le Mont Blanc, j'ai dit que je voulais faire l'Aiguille Verte. Et puis là, on m'a dit, tu t'attendras d'être un peu plus grande pour pouvoir faire des montagnes plus techniques. Parallèlement à ça, j'ai découvert toute la littérature alpine qui m'a donné des rêves, qui m'a donné envie de découvrir des montagnes, qui m'a donné envie de devenir alpiniste ou de faire de la montagne. Et en même temps, j'ai commencé à faire de l'escalade, à grimper très bien, jusqu'à en intégrer l'équipe de France et à devenir plusieurs fois championne du monde d'escalade. Dans les Alpes, on a 82 montagnes qui se trouvent au-dessus de 4000 mètres. Il me reste deux sommets à gravir pour pouvoir avoir fini mon aventure des 4000 mètres. Et ces deux sommets se trouvent ici, dans le massif du Mont-Blanc. On les voit d'ailleurs depuis là où on est. Sont la Blanche de Petraye et le Grand Pilier d'Angle avec une sortie au sommet du Mont-Blanc. Je crois que j'ai gardé la plus belle course pour la fin. Et maintenant, il va juste falloir attendre un peu un créneau météo favorable, puisque c'est une course qui va se dérouler sur 3 jours, avec 2 bivouacs en extérieur, et qu'on ne peut absolument pas se permettre d'avoir des orages ou des précipitations.
Et pourquoi vous grimpez ces montagnes? C'est quoi l'attrait? Pourquoi on monte?
Pour ma part, grimper des montagnes, c'est quelque chose qui m'anime, et c'est ma force, c'est aussi mon moteur. Je pense qu'il y a aussi le côté liberté. Quand on est en montagne, la seule chose qui compte, c'est de gravir la face qu'on a à gravir, de prendre les bonnes décisions et de vivre quelque chose de fort et quelque chose de partagé. Ensuite, je crois que la montagne m'a permis de aussi découvrir des limites ou des zones que je ne soupçonnais pas dans mes ressources. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit dans sa capacité mentale à accepter parfois des choses dures ou de la souffrance physique ou du froid. Et ça donne la confiance pour évoluer dans sa vie.
La montagne ne s'explique pas, elle est au-dessus de la description. Tout au plus, peut-on la commenter. Elle offre l'air pur, l'altitude, la saine fatigue ou le meilleur repos. Elle remet l'homme dans le bain de la nature avec ses joies profondes et ses cruautés. La haute montagne, c'est le bienfaisant contraste de la solitude avec le fourmillement urbain et avec la contrainte des voisins de l'étage inférieur. Vous êtes d'accord avec ça?
Je suis assez d'accord, oui. L'alpinisme est la plus magnifique des écoles d'énergie. Il est magnifique, cet article.
Et le numéro 533 de Match, un magazine français.
1er septembre 1936. L'alpinisme présenté par Fezenroche.
On voit un homme entre deux arêtes.
Voilà, entre deux lames de rocher, le Z du Grand Dru.
Donc en pointillé et noté
l'itinéraire.
Vous avez
donc la description, voilà mon grand-père.
A en grimpé. Pleine montagne, en pleine escalade.
Voilà, en pleine escalade. Donc tout est décrit, suivant le guide. Un coucher de soleil vu du col du géant. Voilà. Ici, vous avez tous les originaux.
Tous ces livres.
Les premières éditions, avant de Premier de Cordée et de tous les autres livres qu'il a écrits. Vous avez donc les éditions dans les langues étrangères, hein, dessous. Ici, je les ai en anglais. Je les ai un peu dans toutes les langues. Voilà.
Je crois que la montagne était à la base de tout ce que j'ai fait. Parce qu'enfin, je crois que je ne serais pas devenu ce que je suis si je n'avais pas été guide. J'ai été choisi comme guide pour une expédition au Hoggar en 1935.
Oui.
Et au retour de cette expédition, qui était pour moi un bouleversement intérieur extraordinaire, la découverte du Sahara, des montagnes, de l'expérience, c'était la chose la plus extraordinaire de ma vie. Alors, en rentrant, j'ai écrit mon premier livre, mais pour moi, j'étais marqué définitivement par cette recherche de l'aventure.
En voyage à Chamonix, sur les traces des pionniers de l'alpinisme, difficile d'échapper à la figure de Roger Frison-Roche, que l'on vient tout juste d'entendre dans cette archivinade 1970. Difficile aussi de ne pas plonger dans cette vaste littérature alpine, comme Raphaël l'a fait, en compagnie de Béatrice Munier, une des petites filles de Frison-Roche. Premier de Cordée, dont Béatrice a parlé, c'est le roman le plus célèbre de Frison-Roche, écrit en 1941, qui raconte la dure vie des guides dans les années 20 et qui va donner envie à tous ceux qui l'ont lu de tutoyer les sommets. Aujourd'hui, en dehors de ces livres, on retrouve la trace de l'écrivain français au cimetière de Chamonix, véritable panthéon et livre ouvert de l'histoire de l'alpinisme. Et nous, on en tourne les pages avec Raphaël et Claude Marin.
Donc voilà, et comme on arrive ici, on tombe sur la première tombe à gauche, c'est Edward Whymper, qui est mort ici à Chamonix de vieillesse. Vainqueur du Cervin, de l'Aiguille Verte, des Grandes Jorasses, de tous ces grands sommets.
C'est lui, cet Anglais, qui a monté le Cervin en premier.
Entre autres. Et juste à côté de lui, Maurice Herzog, le vainqueur de l'Annapurna en 1950. La plupart de ces alpinistes qui sont morts là sont morts dans le cadre d'une pratique qu'ils aimaient. Ils ne sont pas partis en montagne pour mourir, mais ils sont ici au pied de leur montagne. On voit toutes ces plaques de granit au milieu des chamoniards qui sont enterrés ici. Alors vous avez tous les patronymes locaux, Ravanel, Terrasse, et on a comme ça des tombes où on a un père et son fils qui sont morts ensemble, parce que le fils suivait le père pour sa formation. On a un peu plus loin deux frères qui sont morts comme ça, parce que quelquefois, quand on allait faire des voies très difficiles, on partait à deux guides pour un seul client. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les tombes des alpinistes, on les reconnaît assez facilement, parce que ce sont en général des gros blocs de rochers qui sont installés. Et puis si on monte encore un tout petit peu, on va tomber sur la stèle des guides. Voilà, donc vous avez malheureusement trois stèles sur lesquelles il y a de nombreux noms. Et on voit les premiers accidents. Le premier accident en 1820, où il y a eu trois guides qui sont morts sur les pentes du Mont Blanc, emportés par une avalanche.
Pierre Carpier, Pierre Balma, Auguste Terrasse.
Auguste Terrasse. Et quand on vient là, c'est vrai qu'il y a une certaine émotion qui s'empare un peu de nous. On a tous des expériences comme ça, où on a perdu un copain, on a perdu un compagnon de cordée, on a vécu des choses relativement difficiles. Ce qui est assez incroyable, c'est que pratiquement jamais, en tout cas moi, je ne connais pas quelqu'un qui ait vécu ce genre de drame et qui ait décidé de plus retourner en montagne. Et c'est vrai que malgré tous ces accidents, ces nombreuses victimes, enfin nombreux, tout est relatif. Si on dit qu'il y a en une année 20 morts, c'est à la fois beaucoup. Et puis c'est pas beaucoup quand on voit les milliers de personnes qui font de l'alpinisme. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais en tout cas, je pense que on continue toujours.
J'irai là-haut, là où dorment les cimes, là où dorment les cimes, pour qu'on s'aime. J'irai là où tout s'illumine, là où rien ne s'abîme.
Je vous suis ?
Oui. Il s'appelle Moïse. C'est le chien de ma compagne, c'est pas le mien. Tu restes là, Moïse, pas bouger. Allez-y, il va pas vous manger. Gentil. C'est un peu le bazar. Voilà, j'ai écrit ça. Tiens, je vous le donne. J'étais guide des maîtres d'école. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le
ça, quatrième. Ça, c'est tous les livres que vous avez écrits. Carnet de vie, guide de haute montagne, Roland Ravanel.
Voilà.
De la dynastie Ravanel. Ravanel le Rouge, qui est un grand alpiniste français.
C'est un gars de la génération avant 1900. Il a fait des premières et il avait des célébrités comme clients. Le roi des Belges, Albert Ier, entre autres. Ravanel le Rouge, parce qu'il était roux. Et moi, je suis dans la lignée des Lucs. Dans sa famille, comme dans la mienne, au moins 6 générations de père en fils, c'est marrant.
De Ravanel, guide de montagne. Guide. On s'installe par ici ?
Asseyez-vous.
De quoi ils parlent vos livres ?
Ils parlent essentiellement de montagne. J'ai fait des 6000, j'ai fait des treks, j'aime beaucoup. Et je continue et je compte bien y aller cette année. J'ai fait un infarctus, mais ça n'empêche pas. Et puis, ben, j'ai fait des premières avec des copains, avec des clients.
J'en ai des premières, c'est des premières ascensions ?
Des premières, c'est des ascensions qui n'ont pas été gravies auparavant. On dit des premières. J'ai dû en faire entre 40 et 45.
Dites-moi, Roland, c'est quoi votre rapport à la montagne ?
C'est viscéral. Sans la montagne, point de salut. J'ai eu des difficultés dans la vie, comme tout un chacun, et c'est toujours la montagne qui m'a sauvé. J'ai eu beaucoup de copains morts en montagne, j'y suis toujours retourné. J'ai pas eu de clients morts en montagne, hein. Ça aurait pu. J'ai fait des chutes, vous voyez, je suis scalpé là. Mais il n'y a que ça pour moi. J'énervais mes parents, mon père était guide, je l'énervais, parce que je ne parlais que de ça. Et mes parents ne voulaient pas que je fasse guide, parce qu'ils savaient ce que c'était. Ils voulaient que je fasse des études. Et j'étais plus motivé par le sport que par les études. Je ne faisais que grimper. Je faisais l'école à Chamonix. Pendant l'interclasse de midi, j'allais faire un brévent à ski l'hiver, voir la Vallée Blanche. En moins de 30 minutes, j'avais le temps encore de boire le café puis d'arriver en classe. C'était super, j'avais des Bosons, des Charlets dans ma classe, des Balmas. C'était
que des guides.
Inexplicable. C'est viscéral. Et puis après, je me suis cassé la patte, la jambe. 17 fractures à la jambe gauche. Là, je me suis dit, c'est foutu. Le guide, et puis non. Mais beaucoup, toujours des risques, hein, toujours. J'ai passé quand même dans une avalanche au maudit, j'ai rien eu. Je suis tombé en rappel au doré, à plat d'eau, souffle coupé. J'étais pris dans un nuage lenticulaire, il faisait moins 40. On voyait pas à 2 mètres, hein. Tous à ski, c'était l'hiver. On n'avait pas de portable à l'époque, les GPS, j'en ai jamais eu. J'avais la boussole, c'est tout. Mais j'ai un client allemand, moi je voulais pas y aller à cause du temps. Du vent, qui a eu tous les doigts de pied coupés. Moi, on m'a arraché 12 dents, j'avais de la piorée, je sais pas quoi. Puis un autre, il a eu le nez greffé, il reculait jamais, ces gens. Puis je me le suis laissé faire, il aurait pas fallu y aller.
Pourquoi on monte ? Pourquoi il faut gravir la montagne ?
Pourquoi ? Il y en a un qui a répondu parce qu'elles sont là. Il n'y a pas que ça. C'est un tout. S'il y a une paroi qui nous plaît, ben tiens, j'irais bien faire ça. C'est comme ça que ça se passe. Puis après, ça enchaîne avec les difficultés, la technique. On cherchait à faire des belles courses, il y avait une liste de courses type. Si on les faisait, on était un bon guide. J'étais le premier d'Argentière à faire la Noire de Petrée et à faire le Grand Capucin par la voie Bonatti. Alors ça classe un peu. On a notre ego, hein. On s'en fout maintenant, mais à l'époque... On se tirait la bourre.
Vous pensez qu'il y a un appel des cimes, un appel des sommets ?
Oui, c'est ça, en plus fort. C'est irrémédiable.
Et quand on est là-haut, qu'est-ce qu'on ressent ?
Bon, on redescend. Évidemment, on regarde. Mais la contemplation, non. La contemplation, c'est maintenant. C'est à 80 balais. Il faut penser aux risques
penser à la descente. Il ne faut pas perdre de vue, on a la fatigue de la montée, donc à la descente, on est plus vulnérable. On est obligé de garder de l'attention.
C'est vrai que les descentes sont toujours très longues, surtout les descentes à pied. Pour le corps, c'est là où on fait presque le plus mal, c'est dur pour les genoux, c'est aussi souvent dangereux parce qu'on est plus fatigué, c'est souvent à la descente qu'il y a des accidents. Et c'est vrai que pour moi, le parapente, c'est aussi quelque chose qui est très complémentaire de la montagne. Pouvoir arriver au sommet du Mont Blanc, en décoller pour rentrer en bas à Chamonix, c'est quelque chose de très agréable, c'est une belle complémentarité et j'adore aussi voyager dans le ciel, c'est-à-dire partir d'un point et pouvoir me déplacer, pouvoir traverser des montagnes et aller poser un point B plusieurs heures plus tard.
Est-ce que vous pensez que c'est l'évolution moderne de l'alpinisme, ces descentes, où en fait on a l'impression qu'on est un peu moins fasciné par le simple fait de monter, en fait, qui ne séduit plus, et aujourd'hui on cherche à descendre le plus vite possible?
Alors je pense qu'une ascension séduit toujours, mais c'est vrai que pouvoir combiner maintenant avec le matériel qu'on a en parapente, enfin moi j'ai une monosurface qui s'appelle une skin plume qui pèse 1,6 kg, ma sellette elle fait moins de 100 grammes, donc avec 1,7 kg de matériel en plus dans le dos, je peux descendre d'une montagne en volant, ce qui est quand même assez extraordinaire.
En combien de temps ?
Alors ça va dépendre de la hauteur, si on décolle du sommet du Mont Blanc, il y en a pour 45-50 minutes de vol, ça dépend vraiment de la hauteur de la montagne de laquelle on décolle.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
L'alpinisme n'est pas mort, il s'est transformé. C'est plus la conquête des sommets, ce n'est plus la course à la victoire, c'est simplement une victoire sur soi-même. Mais l'alpinisme est toujours vivant. Alors après, on part beaucoup aujourd'hui faire les grandes voies rocheuses, notamment au Pakistan ou en Himalaya. Et on va en Himalaya aujourd'hui comme on grimpait ici il y a 50 ans ou 100 ans. C'est-à-dire qu'on y va en totale autonomie. Les alpinistes sont à très haut niveau technique, ils sont super entraînés et ils font des sommets en 2 jours, 3 jours. Et aujourd'hui, des lieux qui sont extrêmement fréquentés par les alpinistes de très haut niveau, par exemple, c'est l'Antarctique et le Groenland. Et il y a des magnifiques sommets avec des faces de 1000 mètres de haut. Et c'est ce que recherchent beaucoup les alpinistes, ce qu'ils appellent les big walls, donc ces grandes faces rocheuses comme on trouve aux États-Unis ou au Pakistan ou ailleurs. Donc il y a tout un univers encore à découvrir.
Si le terrain de jeu des alpinistes ne se cantonne plus aux Alpes, il n'empêche, la vallée de Chamonix demeure un lieu d'entraînement privilégié, mais aussi de découverte pour tous ceux qui s'essayent à la montagne. Pour les plus intrépides, amateurs de performance, on laissera les nouvelles disciplines extrêmes de slackline, freeride, speedriding ou ski alpinisme. Et pour les autres, plus tranquillement, allez, pourquoi pas, à Chamonix le 15 août, à l'occasion de la fête de la Compagnie des Guides, déjà centenaire. Merci à Jean-Franck, Roland, Claude ou Liv, guides et grands amoureux de la montagne, qui ont bien voulu nous emmener un peu plus haut. Raphaël Constant, Laura Larry et Céline Develay-Mazurel, on vous souhaite de beaux voyages à l'écoute de RFI. À la semaine prochaine.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.